religieuse, aujourd'hui et demain. En compagnie de Mathieu Lavigne et de ses invités.
Bonjour à vous, ici Mathieu Lavigne au micro de Vie religieuse aujourd'hui et demain, un rendez-vous hebdomadaire proposé par la Conférence religieuse canadienne. Chaque semaine, nous vous présentons des entrevues et des témoignages de sœurs, frères, prêtres et de laïcs qui s'expriment sur des thématiques liées à la vie de l'Église et des communautés religieuses canadiennes, ainsi que sur leurs engagements dans la société d'aujourd'hui et les espoirs qu'ils cultivent pour celle de demain. Mon invité cette semaine fut un enfant rebelle et turbulent. D'ailleurs, il reste encore aujourd'hui pour moi, et je le dis en tout respect, un bombe au grand cœur. Mon invité a deux fils de cœur, des hommes ex-détenus qui l'ont choisi comme père adoptif, comme père spirituel, des hommes qu'il a rencontrés derrière les barreaux, ceux de la tristement célèbre prison de Bordeaux, où mon invité a œuvré comme aumônier pendant 38 ans. Il dit d'ailleurs souvent qu'il a été humanisé en prison, qu'il a même été évangélisé en prison. Précisant que Dieu l'a séduit et non appelé, mon invité est membre de l'Ordre des Trinitaires, un ordre cloîtré fondé par Saint Jean de Matha au 12e siècle pour le rachat des captifs. Si mon invité n'a pas, de son côté, payé des rançons pour libérer des captifs, voire pris leur place derrière les murs comme pouvaient le faire ses prédécesseurs, il a contribué à libérer intérieurement nombre d'hommes détenus par son écoute, sa présence libre et son profond respect de la dignité humaine. « Il ne s'agit pas de cautionner le mal, mais d'être complice du bien », aime-t-il souvent nous rappeler. Plusieurs l'auront deviné, l'homme que j'ai à mes côtés aujourd'hui est nul autre qu'André Patry, mieux connu sous le nom de Père Jean. Ensemble, nous évoquerons bien sûr son expérience derrière les murs de ce qui est souvent présenté comme la prison la plus violente du Québec, voire du Canada. Mais nous nous pencherons plus particulièrement sur la vie intérieure de ce religieux hors normes. Père Jean, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation.
C'est réciproque. Merci beaucoup de m'avoir invité.
Alors, Père Jean, j'ai le goût de débuter cette entrevue en abordant un peu votre jeunesse et plus particulièrement ce goût que vous développez très jeune pour la prière. Comment est-ce que vous décririez votre foi de jeunesse qui, une foi qui grandit en parallèle de petits mauvais coups et de turbulences, comme je l'évoquais un peu plus tôt?
Je dirais que lorsque j'étais jeune, et encore aujourd'hui, il y avait en moi l'ange et la bête. La bête, c'était toute cette dimension de mauvais coups que je pouvais faire, d'être rebelle, de faire des coups pendables. Et l'ange, c'est cette dimension d'une espèce de désir, de séduction que j'ai eu tout jeune pour la prière. Pour la prière, mais il faut s'entendre. C'est mystérieux, ma façon de vivre ma foi. Je dis souvent que j'ai été séduit par Dieu déjà très jeune, sans même que je m'en aperçoive. À travers de toutes petites choses, une image, par exemple, je trouvais ça beau, une image. Où j'étais en voiture, puis je voyais les nuages, puis là, j'avais comme une espèce de goût de Dieu à travers les nuages, les rayons, ou encore ma mère quand j'étais petit gars, j'aimais pas aller à la messe, je trouvais ça ennuyant, et puis elle avait attiré mon attention sur le servant de messe. Et elle avait dit, aimerais-tu ça à faire comme lui? Et ce servant de messe-là, c'était un petit gars, moi, qui était un petit peu comme un plus vieux que moi, puis c'était un petit peu un idéal. Tu sais. Et ça a attiré mon attention sur le sacré. Puis je dis que c'est à travers toutes sortes de petites choses, un frère qui est devenu cinéaste, mais qui, lui, était allé au Collège Saint-Laurent, puis il se faisait des hôtels chez nous. Il voulait devenir prêtre, mais il n'est pas devenu prêtre. Il s'est marié, il était aussi bien de se marier. Et puis, il faisait des hôtels, puis moi, je rajoutais des affaires. Ça m'attirait, ces choses-là. Mais en même temps, il y avait ce côté rebelle, mauvais coups, des mauvais plans, au point, et je le redis tout le temps, pour montrer comment j'étais. Il y avait la bête, là. Ma belle-sœur avait dit à ma mère, « Madame Patry, si je devais avoir un fils comme André, je préférais pas en avoir. »
Ouch!
Ça montrait un petit peu. Mm-hmm. Alors, c'est dans ce sens-là. Quand je me regarde aujourd'hui, j'ai 78 ans, puis je regarde depuis mon enfance, Je sens comme que tu as été un séducteur pour moi, Jésus. Tu m'as séduit à travers des toutes petites choses. Et puis même dans les moments que je dirais de déchéance morale, il ne faut pas venir foufou avec ça, là, mais dans des moments où je n'étais pas vraiment dans une attitude intérieure, il y avait cette séduction intérieure qui était toujours là. Alors c'est pour ça que je dis que je n'ai pas été appelé, mais j'ai été séduit et je le suis encore aujourd'hui.
Ouais.
Mais j'ai toujours mon petit côté de bête, le petit côté rebelle.
Ouais.
J'ai toujours des plans dans la tête, puis tout ça. Autrefois, je pense ça aux actes, maintenant, je ne le fais plus. Mais je ris avec ça.
Oui.
C'est
oui,
ça.
Oui.
Alors.
Et cette grande séduction va vous pousser à cogner à la porte de l'Ordre des Trinitaires au début des années 60. Alors, pourquoi cette communauté religieuse plutôt qu'une autre?
Moi, d'abord, je dois dire que mon père a refusé que j'aille dans un séminaire. Quand j'avais un prêtre chez les servants de Jésus-Marie où je servais la messe, c'était des sœurs contemplatives adoratrices du Saint-Sacrement, puis le moinier dit, veux-tu passer un examen chez au petit séminaire? Mon père dit, il n'en est pas question, tu n'iras jamais dans un séminaire. Et il dit, tu vas aller dans un externe classique où ça a été fondé, un externe qui a été fondé par l'archevêque d'Ottawa, Monseigneur Lemieux, qui était un père dominicain. Et puis il dit, c'est ouvert à toutes les professions. Alors, j'ai vécu ma vie jusqu'à 22 ans, très, très, très libre. Et à 22 ans, j'avais cette sensation intérieure de vouloir devenir prêtre, mais j'ai rencontré le Père Pierre, qui était un des premiers à être trinitaire au Canada. Et il m'a parlé de l'ordre de la Sainte Trinité des captifs, puis j'étais attiré par le monde marginal déjà avant moi là. J'interviewais des femmes prostituées qui étaient à côté de la pharmacie de mon père au restaurant. Je les interviewais et tout ça. Puis j'étais attiré par les prêtres ouvriers, l'Amicale du Nid. On pouvait adopter une nièce spirituelle. Alors j'avais écrit pour avoir une nièce spirituelle qui était une prostituée, ou encore par les sœurs dominicaines de Béthanie qui étaient des sœurs dont les premières ont été des prédateurs. Alors, j'étais déjà attiré. Puis, je suis entré chez Trinitaire pour aller en prison.
Mm-hmm.
J'aurais pu y aller autrement, mais j'ai pensé que c'était
peut-être plus sage de passer par les Trinitaires.
C'était plus sage. Puis, dès qu'il y a eu un poste ouvert, j'ai été envoyé après mon ordination en 66. Normalement, j'aurais dû être ordonné en 67, mais dans les grands ordres, on était ordonné avant Noël. Et j'ai été un an et demi, là, puis après ça, on m'a envoyé à Bordeaux.
Mm-hmm.
En janvier 69.
Comme un des plus jeunes aumôniers, je crois.
Ah, j'avais 28 ans.
Oui.
Et il y avait à l'époque des condamnés à mort, et puis il y avait
oui.
l'Institut Pinel, il y avait des juvéniles, il y avait prévenus et détenus, comme aujourd'hui encore. Là. Alors, mais c'est comme, quand je suis rentré là, moi, c'était comme si je venais d'avoir atteint un sommet dans la réalisation d'un rêve.
Oui. Et Père Jean, vous faites partie des Trinitaires, on l'a évoqué. C'est une communauté qui œuvre auprès des démunis, des personnes détenues. Mais c'est une communauté qui est également cloîtrée. Et Père Jean, vous vivez dans la communauté, vous n'êtes pas cloîtré.
C'est-à-dire que je vais corriger.
OK.
Je suis prêtre associé de l'ordre.
Ah, parfait.
C'est ça que... Mais l'ordre...
Elle est là la nuance. Là.
Oui, elle est là la nuance. Mais l'ordre, n'oublions pas, quand je suis entré, c'était vraiment cloîtré. On avait la grille et tout ça, là. Mais comme la fondation, les religieux étaient 6 mois pour aller racheter les captifs, et quand ils revenaient avec des captifs, ils revenaient avec des personnes malades, donc les couvents étaient toujours à l'extérieur des villes. Et là, ils restaient 6 mois pour vivre la vie de prière, se refaire des forces et tout ça. Alors, ça c'est avec les années, en 62, là, le concile et puis tout ça, ben, ça s'est ouvert beaucoup.
Mm-hmm.
Et c'est pour ça que l'ordre a été assez impliqué beaucoup dans les œuvres sociales. Et puis, même si à Granby, il y a un centre de spiritualité, ben, c'est souvent aussi une libération de captifs intérieurs.
Oui.
Ça, c'est une chose.
Prison intérieure.
Exactement, oui. Une prison intérieure. Alors, mais moi, je dois avouer que mon année de noviciat, étant donné que je suis rentré à 22 ans, donc j'avais connu une vie très, très libre, c'était une année où on vivait le silence. Total.
Et vous qui parlez.
Et puis moi qui parlais, puis moi qui me faisais aller, puis mon père maître m'avait dit une fois, en me coupant les cheveux, parce qu'on avait la couronne monastique, vous étiez vedette dans votre milieu, avant d'entrer, vous ne serez pas ici. Mais ça a été une année pour moi qui a été très, très difficile.
La vie en communauté.
Pas la vie en communauté, une rencontre avec moi-même. Oui. Alors, ça a été extraordinaire, cette rencontre avec moi-même. Et je dois avouer que dans la communauté, dans mon noviciat, j'ai eu des grâces particulières. Ouais, toute cette dimension de Dieu présent chacun et chacune de nous d'une façon réelle. Moi, quand je suis entré au noviciat, moi, la Sainte Trinité, c'était pas fort fort, là. Il y avait Dieu le Père, un petit vieux avec une barbe. Il y avait le Saint-Esprit, un moineau. Puis il y avait Jésus, là, ben ça, je le connaissais. Puis il y avait la Vierge Marie, Saint-Joseph un peu. Puis après avoir lu Saint-Jean, Élisabeth de la Trinité sur la vie et l'inhabitation de la Trinité, Dieu présent à chaque personne. Dans ma deuxième partie de mon noviciat, j'ai vraiment pris conscience que j'étais habité réellement par Dieu, Père, Fils et Esprit. Et je peux dire qu'à mon baptême, j'étais trinitaire, mais que là, j'ai pris conscience de mon baptême, en prenant conscience de cette présence en moi. Ouais. C'est pour ça que je considère que l'état de grâce, là, quand j'étais jeune, moi, les péchés mortels étaient partout, surtout le sexe. Alors, pour moi, quand j'allais me confesser, Dieu n'était plus là. Alors, quand j'avais l'absolution, il rentrait, mais il sortait puis il se promenait, tu sais. Mm-hmm. Il arrête. Bon, j'ai pris conscience qu'il est toujours là, Dieu. Toujours là. C'est Thomas d'Aquin qui dit « Dieu est en toute créature par son essence, sa puissance et son amour. » Et Saint Jean de la Croix dit « Dieu est présent en toute personne, chez certains, et lié comme un roi parce qu'on s'en occupe, et chez ceux qui ne l'aiment pas, il est présent, mais comme un étranger parce qu'on ne s'en occupe pas. »
Alors, ça, c'est pour important moi, pour vous, la dignité,
la présence de Dieu en moi, mais dans ma famille, j'ai vécu ça, parce que mon père était un homme très ouvert. Ma mère est morte, j'avais 9 ans. Mais c'était une femme qui allait faire dans les bazars. Bon. Mais mon père était un homme très ouvert. Il était très chrétien, un grand chrétien. On allait à la messe, mais il y avait une grande ouverture d'esprit. Et puis, cette dimension du respect de la personne dans sa dignité comme personne, ça, c'était... J'ai reçu ça de ma famille. Pour comprendre que Dieu était en moi, c'est au noviciat. Et ces deux dimensions-là qui sont inséparables, et aussi par la baronne de Huec, Catherine de Huec, en 69, quand je suis rentré au noviciat, là, quand je suis rentré en prison, j'ai fait la rencontre de cette baronne russe à Combermere, où elle m'a fait découvrir que non seulement Dieu est en nous, mais qu'en chaque personne qu'on rencontre, c'est la personne du Christ. Et il y a quelques jours, je suis allé accompagner un gars que je n'avais pas vu depuis 30 ans, qui est mort d'un cancer que j'ai connu en prison. Et par hasard, un autre gars que j'ai connu en prison, qui vient à l'Oasis Liberté, l'a vu dans un parc en train de lire. Puis il a dit, qu'est-ce que tu lis? Ben, il dit, je lis un livre sur le Père Jean. Il dit, tu connais le Père Jean? Ben, il dit, oui. Ben, il dit, j'aimerais ça le voir, je vais mourir. Dans quelques mm-hmm. semaines. Alors là, son frère m'a appelé, puis il était en agonie à l'hôpital Le Chum. Je me suis rendu là. Pour moi, là, être présent à lui, c'est être présent à la présence réelle du Christ, en train de mourir. Et là, quand j'ai vu la dame, une bénévole, lui laver les cheveux, il était en agonie, il est mort quelques heures après, lui laver les cheveux, cette femme-là, là, avec le tel respect qu'elle avait, je disais, elle lave la tête du Christ. C'est d'ailleurs tellement vrai, hein, quand Jésus dit « j'avais faim, j'avais soif, j'étais nu », chaque fois que tu l'as fait, c'est à moi que tu l'as fait, pas comme si c'était à moi. Et c'est pour ça que je dis « j'ai été évangélisé en prison », parce que dans chaque personne, pour moi, qui me tombait ses nerfs, je me disais « je dois l'accueillir pour ce qu'il est, lui, comme personne, même s'il me tombe bien ses nerfs, parce qu'il veut être aimé pour lui-même, non pas par amour pour Dieu, pour lui-même ». Mais aussi l'accueillir parce que c'est le Christ qui me rencontre, que je rencontre. Alors pour moi, là, être devant le Saint-Sacrement, me laisser regarder par Jésus, me laisser aimer par lui, c'est aussi réellement présent que quand j'étais auprès du gars, là, j'ai dit « Seigneur, regarde-moi, puis continue à me regarder puis à m'aimer ». C'est le corps du Christ. Et le pape François dit « Quand tu touches à un pauvre, tu touches la chair du Christ ». C'est fort, ça. Ça change toute notre perspective. Je fais bien des folies. Mm-hmm. Mais dans les folies, il faut arriver et pouvoir
Vous avez une sensibilité pour le sacré, là, on sent chez vous.
Oui, beaucoup.
Oui. Père Jean, souvent on va parler de l'option préférentielle pour les pauvres, un principe élaboré dans la doctrine sociale de l'Église catholique, mais dans votre cas, j'ai l'impression qu'on pourrait parler d'une option pour la miséricorde.
Oui.
Quelle place prend la miséricorde dans votre vie de foi, en fait, dans votre vie tout court?
D'abord, à travers cette séduction de Dieu pour moi, j'ai été baigné dans la miséricorde, dans ma vie personnelle. J'ai évolué parce que autrefois j'étais centré sur des gestes magiques. Pour moi, le sacrement de la miséricorde était devenu un geste magique. C'était comme tu allais puis tu étais lavé de tes péchés. Aujourd'hui, je vois ça autrement. Sacrement de la miséricorde, c'est une rencontre avec la miséricorde. Mais cette rencontre est d'abord et avant tout dans l'Eucharistie, le sacrement des sacrements auquel est greffé tous les sacrements. Et puis, c'est au cours des siècles, au cours des années que j'ai pris conscience que notre Dieu ne peut pas être autre chose que miséricordieux. Et il y a un très beau texte qui dit « Seigneur, tu n'as de répulsion pour aucune de tes créatures. Tu n'aurais pas créé un être sans avoir de l'amour pour lui. » Donc, quand Dieu crée, il crée par amour. Et il a créé les êtres visibles et invisibles. Et ça va tellement loin, quand on dit « il a créé les êtres visibles et invisibles », que c'est lui qui crée les anges. Et Dieu ne peut pas retirer son amour. Dieu ne peut pas vouloir se venger. Dieu est amour. C'est son essence même, c'est l'amour. Et je vais même jusqu'à dire que s'il est amour et qu'il retirait son amour, l'être n'existerait plus, qu'il aime le diable. Parce qu'il est Dieu. Et le péché mortel, c'est ce refus d'accueillir l'amour. Et qui, quand les gens me disent « Je ne crois pas en Dieu » ou « Dieu, je ne veux rien savoir de Bible », de quel Dieu parle-t-il? Qui connaît vraiment Dieu? Pascal disait « Le seul qui peut nous révéler Dieu, c'est Jésus ». Quand on parle, on est une bande d'ignorants devant Dieu. Alors, c'est pour ça que la miséricorde est infinie. Il n'y a pas de limite à la miséricorde. Ça ne veut pas dire qu'on va se mettre à faire la vie de bambocher puis tout ça. C'est pas ça que je dis. Dans l'ordre de l'amour, si on dit « oui, bon, on va faire ce qu'on veut, puis après ça, on va être pardonné », c'est pas ça. Quand on entre dans la dynamique de l'amour, d'une relation, la foi, c'est pas un feeling, être en relation avec des principes, des dogmes. La foi, c'est une relation avec une personne, la personne de Jésus, de Dieu, le Père et l'Esprit en nous.
Et ça devient une voie pour être en relation avec les autres.
Avec les autres, parce qu'on ne peut pas dissocier l'amour de Dieu de l'amour du prochain.
C'est ça.
Alors, c'est pour ça que moi, je me dis, Dieu ne peut pas ne pas... C'est son essence même, le pardon. Quelqu'un qui prend conscience qu'il est un pauvre pécheur, à l'instant, il est pardonné. Puis quand on va au sacrement de la miséricorde, on est confirmé dans le pardon. Mais l'Eucharistie, c'est le sacrement des sacrements, de la miséricorde et du pardon, parce qu'on est lavé de nos péchés par la mort et résurrection du Christ. Alors pour moi, c'est très important que tu le dises, on ne peut pas dissocier notre relation, je dirais, contemplative du Christ en nous, puis dans l'Eucharistie ou dans les sacrements, de la contemplation du Christ dans les personnes. Mais pas rien que faire la contemplation, mais être au service des personnes. Puis les respecter dans leur dignité comme personnes humaines. Puis moi, je vois la dignité comme un petit diamant qu'on ne perd d'abord, on ne perd jamais sa dignité. C'est l'ADN de la personne humaine, la dignité. On peut ne plus avoir l'impression qu'on n'a pas de dignité ou projeter une image qu'on dit a perdu sa dignité, on va lui faire retrouver sa... On ne fait pas retrouver la dignité à quelqu'un. Chaque personne, en elle-même, elle ne perd pas sa dignité.
Mais perdre la conscience
de sa dignité. La conscience de sa dignité, on peut la perdre.
C'est ça.
Mais pas la dignité. C'est comme un petit diamant à l'intérieur qui demande qu'à rejaillir comme une lumière. Et il suffit d'une personne, d'une lecture, d'une rencontre, qui va faire qu'on va faire découvrir à l'autre la beauté de son être intérieur. Jean Vanier disait, aimer quelqu'un, c'est lui révéler la beauté de son être. C'est ça. Puis en prison, combien de gars j'ai vus qui se sont découverts à l'intérieur d'eux-mêmes des talents extraordinaires et qui ont découvert leur valeur personnelle. Et avant, premièrement, en prison, j'allais pas me promener avec des crucifix puis la Bible dans la prison. C'était d'établir une relation humaine et faire confiance et aimer l'autre pour ce qu'elle est, la personne. Puis en faisant ça, Dieu nous aime pour ce qu'on est, tel qu'on est, pas malgré nos péchés, avec nos péchés, et nous aime comme ça, et c'est pour ça que je dois les aimer pour ce qu'ils sont, et c'est comme ça, aimer Dieu par amour pour Dieu, aimer son prochain par amour pour Dieu, on l'aime avec le cœur de Dieu.
Et vous avez évoqué tout à l'heure le sacrement de l'Eucharistie, là vous évoquez cette idée que Dieu nous aime avec nos péchés. Donc, l'Eucharistie, c'est un sacrement pour lequel vous avez un amour profond.
Particulier.
On le sent, puis... est-ce que je me trompe ou pour vous, l'Eucharistie, c'est le sacrement des laissés pour compte, le sacrement des gens blessés par la vie?
Le sacrement des pécheurs et des pécheresses. Saint Augustin disait, tu pèches tous les jours, va communier tous les jours. Mais l'Eucharistie, on ne peut dissocier l'Eucharistie du service des autres. C'est tout le sens du lavement des pieds. C'est le seul endroit dans les quatre évangélistes où il n'est pas question de l'institution de l'Eucharistie dans Saint Jean. Il y a le repas, après ça, il se lève, il se met un tablier, il lave les pieds de ses disciples, puis là, il leur dit, « Moi, le maître, je vous ai lavé, bien, faites la même chose avec les... Lavez-vous les pieds les uns des autres par l'eau de votre tendresse, de votre amour. » Alors, on ne peut pas aller à l'Eucharistie et puis, après ça, dire, « On a vécu une petite Eucharistie, moi puis le petit Jésus, là. » Non, on continue l'Eucharistie dans le service des autres. Et l'Eucharistie se vit dans la personne qu'on va rencontrer, peu importe l'endroit.
Oui,
peu importe l'endroit. On n'est pas obligé d'aller en prison pour ça.
C'est ça, c'est pas une récompense,
non.
C'est le pain du chemin.
C'est le prolongement de l'Eucharistie en acte, c'est ça.
Oui.
C'est l'Eucharistie en acte.
Oui. Père Jean, vous avez déjà dit que Dieu lui-même est parfois prisonnier de nos églises. Que Dieu est parfois prisonnier de certaines règles, de certains rituels.
Oui.
Comment est-ce qu'on peut alors, si on peut dire, le libérer?
C'est le pape qui disait, je pense, il faut sortir Dieu des églises. C'est ça, il faut le laisser. On l'a emprisonné souvent dans nos tabernacles. Mais Dieu est partout. L'Esprit Saint travaille même dans ceux qui n'ont pas la foi. L'Esprit est libre. Alors, on était souvent trop centré sur... c'est dans l'Église. Mais non, l'Église, c'est la communauté, c'est le peuple. Et puis, moi, je dis, c'est ça, il faut sortir Dieu de nos Églises parce qu'il est présent dans toutes les personnes qu'on rencontre. Et le sortir des Églises, c'est pas rien que d'arriver puis de parler de lui, mais il faut être en relation avec les personnes. Et c'est par notre façon d'être qu'on va rejoindre les gens. Je me souviens d'être allé conduire les sœurs de Mère Teresa, quand le pape insiste beaucoup sur la joie. Il faut avoir la joie. L'écoute,
oui.
L'écoute et la joie. Et puis, je me souviens d'être allé conduire des sœurs de Mère Teresa au terminus voyageur, parce qu'une sœur s'en allait à Québec. Et puis, elles risquaient d'être entrées. Elles sont entrées, puis étaient comme des petites filles. Ils riaient. Les gens étaient éberlués. Ils ont dit, mais qu'est-ce que c'est? Ces femmes-là ont donc bien l'air heureuses. Ben, c'est des amoureuses de Dieu. Elle rayonnait, puis tu peux pas dire que les sœurs de Mère Teresa, ils parlent bien gros dans le public, hein? Mais par leurs actions, leur témoignage, c'est ça.
Oui.
C'est alors, moi, je dis que Dieu est partout, même dans les saunas. Dieu est partout, même dans les saunas. C'est là que Dieu, il se révèle dans tout ce que c'est, partout où on va.
Oui.
Faut pas penser qu'il est absent de nous. Il travaille. Puis j'ai des exemples là-dessus, mais ce serait trop long pour le dire.
Souvent, vous parlez vous dites croire au Dieu de l'impossible.
Ah oui, le Dieu de l'impossible.
Comment est-ce que vous décririez ce Dieu de l'impossible?
Quand moi, je l'ai vécu en prison, puis je le vis encore, si je ne croyais pas au Dieu de l'impossible, je ne serais pas resté dans 38 ans en prison. Quand on a tout fait, quand on a tout épuisé les ressources... C'est là qu'on dit, ben là, moi, j'ai fait mon possible, toi, t'es le Dieu de l'impossible, fais ta job. Je m'en remets à toi.
Oui.
Et c'est là que j'ai vu des choses extraordinaires. C'est lâcher prise. Se laisser tomber dans ce brasier de la miséricorde, puis dire, tu agis. Il faut croire dans la communion des saints. Combien de gars j'ai vu se convertir, je pense à un entre autres, mais plusieurs, mais qui étaient considérés irrécupérables. Et la parole de Dieu est efficace en prison. Ils vont lire la Bible, et là, ils sont frappés par une parole, et ça les questionne, Et puis, à un moment donné, ça les amène à une conversion, un changement. Je ne dis pas qu'ils vont aller à la messe tous les jours, ce n'est pas ça que je dis, mais une découverte de Dieu qu'ils ne connaissaient pas.
Il y a un déclic. Là.
Un déclic qui se passe. Et puis, quand je parle de la communion des saints, je dis, dans la communion des saints, on rejoint des hommes, des femmes pour lesquels on n'a pas idée qu'ils puissent arriver à une transformation intérieure, que ça peut passer par des psychologues, n'importe quoi, mais... Et puis, je l'ai réalisé en prison. Et j'ai déjà vécu une chose tellement dure en prison, là, où j'avais... un gars avait tout cassé dans son secteur, dans sa cellule et tout ça, puis... là, j'ai été là de 3h l'après-midi jusqu'à 9h le soir, puis... Je l'avais accompagné jusque dans le trou, puis dans le trou, il a voulu encore le trou, c'est la prison de la prison. Oui. Et là, il rageait, j'ai dit, prends-moi par les mains, là. Il était derrière les barreaux de ça, c'est là. Puis j'ai dit, hurle toute ta haine. Puis il était rendu 9h du soir. Et j'avais vécu tellement de choses dures avec lui, là, parce que les gardes voulaient venir, puis tout ça. Puis là, à un moment donné, il était en train de me casser les mains, c'était un gars qui avait fait de la boxe. Alors, il tombait assis sur son lit. Puis quand je suis arrivé chez nous, j'étais épuisé.
Oui.
J'ai dit, Seigneur, devant le Saint-Sacrement, j'ai dit, Seigneur, moi, je n'en peux plus. Je m'en remets totalement à toi, puis je te le confie. Et j'ai senti une telle paix m'habiter que j'ai dormi comme un ange. Mmh. C'est un ange d'or,
oui.
Bien entendu. Peut-être pas, hein? On va peut-être y aller au ciel pour voir.
Pour voir. Père Jean, merci beaucoup, beaucoup pour votre présence en studio aujourd'hui. Merci beaucoup.
Ça me fait plaisir.
Alors, je rappelle que le Père Jean, alias André Patry, fait partie de l'Ordre des Trinitaires et qu'il fut aumônier à la prison de Bordeaux pendant 38 ans. Il publiait en 2015 avec Gilles Darroutsy un livre d'entretien intitulé « En toute liberté », un livre publié aux éditions Novalis. Merci d'avoir été à l'écoute de cet épisode de Vie religieuse aujourd'hui et demain, une émission proposée par la Conférence religieuse canadienne avec le soutien de la Fondation canadienne de la vidéo religieuse. Un amical merci à Alexandra Jourdain Jean à la régie. Je m'appelle Mathieu Lavigne et je vous invite à rester à l'antenne de Radio-VM. À bientôt.